Au tout début de son pontificat, Jean-Paul II avait souhaité qu'une commission approfondisse, je cite, « l'examen du cas Galilée et dans une reconnaissance loyale des torts de quel côté qu'ils viennent, fasse disparaître la défiance que cette affaire opposait encore dans beaucoup d'esprits à une concorde fructueuse entre science et foi. » Donc c'est dire combien cet épisode, cette affaire Galilée, illustre la fracture entre la foi et la raison que nous voyons apparaître dans les temps modernes. Face à la véritable révolution scientifique qu'a constituée la naissance de la science moderne, comment l'Église allait-elle réagir? En effet, nous l'avons vu hier, jusqu'alors, discipline scientifique et théologique allait plutôt de pair. Et l'on voyait même dans l'astronomie une science particulièrement religieuse, puisqu'elle s'intéressait au corps céleste, considéré comme parfait, incorruptible, voire divin. Alors, lorsqu'en 1610, Galilée braque sa lunette vers le ciel, il observe que les corps célestes, et la Lune en particulier, ne sont pas parfaitement sphériques. Il observe des montagnes sur la Lune ou des taches sur le Soleil. Cela nous semble évidemment aujourd'hui d'une grande banalité, mais ce ne l'était pas pour les anciens. Au point que certains ont pensé que Galilée avait un défaut sur sa lunette. On put y voir, sinon la preuve, au moins un signe fort que le monde céleste ressemblait fort au monde terrestre, et que l'inverse aussi était vrai. Si des lois mathématiques que l'on avait déjà mis en évidence auparavant avec Copernic ou Kepler régissaient les corps célestes, alors il devait en être de même pour les corps terrestres. Avec la mathématisation du monde naissait la science moderne. Mais là encore, science et foi semblaient plutôt intimement liées. Pourquoi ? Eh bien, les mathématiques ne sont-elles pas le langage de Dieu ? Les ennuis commencèrent vraiment lorsque les résultats des uns semblèrent s'opposer aux enseignements des autres. Alors, où était la vérité ? Dans ce contexte, agité en plus par la crise protestante, nous venons de le voir, un grand saint va se faire le défenseur de l'Église et de la vérité, véritable homme à tout faire du pape pour conduire les affaires complexes et dangereuses pour la papauté, c'est saint Robert Bellarmin. Alors, qui est-il ? Quelle part a-t-il pris dans l'affaire Galilée ? Quel éclairage nous en donne-t-il ? La foi s'oppose-t-elle réellement à la science moderne ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce petit enseignement. Alors, qui est saint Robert Bellarmin ? C'est probablement le jésuite qui a servi avec le plus d'humilité et de loyauté le plus grand nombre de papes. Pour saint Pierre Canisius, dont nous venons de parler, il incarne un des aspects fondamentaux de l'activité de la Compagnie de Jésus, à savoir le service intellectuel de l'Église. Voici comment Benoît XVI le présentait dans sa catéchèse du 23 février 2011. Né le 4 octobre 1542 à Montepulciano, près de Sienne, Robert est le neveu du côté de sa mère du pape Marcel II. Il reçut une excellente formation humaniste avant d'entrer dans la Compagnie de Jésus le 20 septembre 1560. Les études de philosophie et de théologie qu'il accomplit au Collège romain, à Padoue et à Louvain, centrées sur saint Thomas et les pères de l'Église, furent décisives pour son orientation théologique. Ordonné prêtre le 25 mars 1570, il fut pendant quelques années professeur de théologie à Louvain. Appelé par la suite à Rome comme professeur au Collège romain, il lui fut confié la chaire d'apologétique, donc de défense de la foi, au cours de la décennie où il occupa cette fonction, donc entre 1576 et 1586, il prêcha une série de leçons qui vont devenir par la suite les Controverses, une œuvre devenue immédiatement célèbre en raison de la clarté et de la richesse de son contenu et de son ton essentiellement historique. Le Concile de Trente s'était conclu depuis peu Et pour l'Église catholique, il était nécessaire de renforcer et de confirmer son identité, notamment face à la réforme protestante. Et l'action de Saint Robert Bellarmine s'inscrit dans ce contexte. Le 3 mars 1599, il est créé cardinal par le pape Clément VIII et le 18 mars 1602, nommé archevêque de Capoue. Mais après l'élection du pape Paul V, il est rappelé à Rome, où il devient membre des congrégations du Saint-Office, de l'Index, des rites, des évêques et de la propagation de la foi. Il meurt à Rome le 17 septembre 1621. Le pape Pie XI l'a béatifié en 1923, canonisé en 1930 et proclamé docteur de l'Église en 1931. Il devait beaucoup l'aimer. Voilà. Alors, ajoutons que c'est surtout après être retourné à Rome au service du pape Paul V que Saint Robert Bellarmine va être mis en contact avec les nouvelles hypothèses scientifiques du moment. Ses fonctions au Saint-Office, comme sa curiosité intellectuelle, encore un esprit très brillant, firent de lui l'interlocuteur privilégié de Galilée, qui lui dédia son discours sur les corps flottants en 1612 et à qui il dut notifier sa condamnation en 1616. L'œuvre de Bellarmine peut se ramener à deux grands axes de pensée, la critique biblique et l'ecclésiologie. En considérant que Dieu ne s'est pas seulement révélé dans les Écritures, mais aussi dans des traditions non écrites, Bellarmine va établir des règles de discernement pour écarter les fausses traditions et ne conserver que celles qui sont effectivement nécessaires au dépôt révélé. Quant au sens des passages de l'Écriture, Bellarmine affirme avec force que le juge des Écritures, c'est l'Église. Soucieux de protéger dans les controverses antiprotestantes la lecture littérale de l'Écriture, il n'était pas pour autant adversaire de la nouvelle physique. En témoignent ses lettres à Federico Cesi, le fondateur de l'Académie des Lynx, et au Carme Foscarini, un des défenseurs de Copernic. Et c'est justement à partir de cette dernière lettre, donc de la lettre de Saint Robert Bellarmine au Carme Foscarini, où il répond en même temps à Galilée, qui lui avait exposé sa propre thèse dans une lettre à son ami Castelli, mais qui s'était largement diffusée. Donc beaucoup de monde avait eu accès à cette lettre de Galilée. Et bien, dans cette lettre de Saint Robert Bellarmine à Foscarini, nous connaissons la position de Saint Robert Bellarmine vis-à-vis des nouvelles données exposées, à savoir la thèse de l'héliocentrisme, donc le soleil au centre de l'univers et la Terre qui tourne autour, qui allait alors à l'encontre de celle couramment admise, le géocentrisme, et nous allons y revenir. Donc intéressons-nous maintenant à Galilée et à la science moderne. Galilée voulait être le nouvel Aristote. Il proposait de faire une nouvelle physique. En effet, nous l'avons vu, ces nouvelles observations astronomiques, comme les satellites de Jupiter, les phases de Vénus ou même les imperfections des astres, n'étaient pas compatibles avec la physique aristotélicienne. Et par ailleurs, il était convaincu que la science donnait accès au réel et qu'on ne devait pas consentir à la réserve exprimée jusqu'alors face au traité de Copernic. Galilée pensait que l'univers pouvait se rendre intelligible par des modèles mathématiques. Et bien plus, que l'univers était réellement écrit en langage mathématique et qu'il ne s'agissait donc pas de simple modélisation, mais qui permettrait de sauver les apparences, comme on l'utilisait pour Copernic jusqu'ici, mais d'une caractérisation du réel. Outre la mathématisation de la nature, donc nous l'avons dit, tous les phénomènes observés sont quantifiés, mis en équation. La science moderne qui l'initie passe d'une méthode plutôt déductive, donc du général au particulier, à une méthode inductive, donc du particulier au général, au moyen de l'expérience. Ça va être une des clés de cette science moderne. Il ne s'agit donc plus d'observer seulement, mais d'expérimenter à partir d'une théorie préalable, et l'expérience viendra confirmer ou corriger cette théorie. La science moderne, dit-on, ne veut connaître les phénomènes et leurs causes que depuis l'expérience, et non plus selon les arguments verbaux de la scolastique, de l'avéroïsme ou de l'aristotélisme. C'est vrai que jusqu'alors, on faisait surtout de la science en observant et en commentant les œuvres des anciens et essentiellement d'Aristote. Cette évolution va tendre à écarter toute connaissance du donné révélé et à creuser un fossé entre la science et la théologie. D'où la pensée de Galilée, autre est ce que dit la Bible, autre ce que nos yeux ont vu. Qu'on glose la Bible autant qu'on voudra, mais les données de l'expérience sont intangibles. Fin de citation. Alors Galilée est un chrétien sincère, convaincu de la sentence du livre de la sagesse. Ce livre de la sagesse dit en effet, « Toi, Seigneur, tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids. » Pour lui, l'harmonie du monde était un effet de la sagesse divine. Mais il proposait aussi un renouvellement de la lecture de l'Écriture, en privilégiant une lecture spirituelle, c'est-à-dire dont les leçons serviraient essentiellement pour la vie de l'âme, sans y chercher des enseignements sur le monde observable. Pour lui, les sciences naturelles permettaient d'aboutir à des certitudes telles qu'en cas de conflit avec des formulations bibliques ou dogmatiques, ces dernières devaient s'effacer devant l'observation et la démonstration scientifique. Donc vous imaginez bien la révolution que sa pensée a pu produire dans la chrétienté, alors que la vision du monde tirée de la Bible, donc en particulier le géocentrisme, était souvent présentée comme une vérité absolue. Galilée n'entendait pas cependant contredire la vérité de l'Écriture. Pour lui, Dieu, en tant qu'auteur de l'Écriture et législateur de la nature, ne pouvait pas se contredire lui-même. Le vrai ne contredit pas le vrai. Mais si une contradiction apparente se présentait, c'est qu'une erreur avait dû se glisser dans leur interprétation. Et les sciences naturelles, loin de s'opposer à l'Écriture, permettraient alors même d'en saisir le vrai sens. Que répondit Saint Robert Bellarmin ? Alors celui-ci avait bien perçu le véritable enjeu du débat, qui touche à la fois à la nature de la science et à celle du message de la foi. Il faut tenir les deux. Alors il souligna d'abord que l'hypothèse copernicienne n'était pas encore démontrée et que, en l'état des connaissances, elle semblait incompatible avec la physique de l'époque et les vérités d'ordre cosmologique ou astronomique que paraissait contenir l'Écriture. Aussi, leur exposé pouvait nuire à la foi en faisant apparaître comme fausses les saintes Écritures et il fallait donc être prudent. Pour autant, Il reconnaissait sans restriction aucune la valeur de la raison et de la science acquise par les hommes. Et devant une vraie démonstration des hypothèses nouvelles, il faudrait, écrivait-il, procéder avec beaucoup de circonspection dans l'explication des Écritures qui paraissent contraires à cette assertion. Et plutôt dire que nous ne les comprenons pas que de dire que ce qui est démontré est faux. Ce faisant, il ne faisait pas autre chose que saint Augustin avant lui, qui écrivait « S'il arrive que l'autorité des saintes Écritures soit mise en opposition avec une raison manifeste et certaine, cela veut dire que celui qui interprète l'Écriture ne la comprend pas correctement. Ce n'est pas le sens de l'Écriture qui s'oppose à la vérité, mais le sens qu'il a voulu lui donner. Ce qui s'oppose à l'Écriture, ce n'est pas ce qui est en elle, mais ce qu'il y a mis lui-même, croyant que cela constituait son sens. » Et c'est encore ce que réaffirmera plus tard le pape Léon XIII dans son encyclique Proventissimus Deus, pardon. Puisque le vrai ne peut en aucune façon contredire le vrai, on peut être certain qu'une erreur s'est glissée soit dans l'interprétation des paroles sacrées, soit dans une autre partie de la discussion. Fin de citation. D'où le point central de la lettre de saint Robert Bellarmin à Foscarini et donc à Galilée. « Vous agiriez prudemment, écrit-il, en vous contentant de parler ex suppositionné et non de manière absolue. » Et en cas de doute, il recommandait de ne pas abandonner l'interprétation de l'Écriture exposée par les saints-pères, Alors il faut noter qu'ici, il étend le principe énoncé par le Concile de Trente, qui n'exige cela que dans le domaine de la foi et des mœurs. Revenons à Galilée. En un sens, la conviction de Galilée sur l'interprétation de l'Écriture, donc lui qui l'expose longuement dans sa lettre à Christine de Lorraine, eh bien son interprétation de sa conviction sur l'interprétation de l'Écriture rejoint celle de saint Robert Bellarmin, à cette exception près que lui, n'étant pas le principe énoncé par le Concile de Trente, mais tend plutôt à le restreindre, car lui considère l'autorité des saints-pères uniquement pour les assertions donc les affirmations solennellement définies par le magistère comme étant deux fois, alors que le Concile, lui, parle de res fidei, donc des choses de la foi dans leur ensemble. Mais Galilée voulut aller plus loin, en enjoignant aux théologiens de réfuter eux-mêmes la thèse de l'héliocentrisme s'ils ne la jugeaient pas conforme à l'Écriture, alors que lui-même n'avait pas encore réussi à prouver de manière irréfutable la double mobilité de la Terre, et que ses essais dans ce sens comportaient en outre des erreurs scientifiques. Par exemple, on sait qu'il voulait voir dans le phénomène des marées une preuve de la rotation de la Terre, et on sait maintenant que c'est faux. Voilà. Plus encore, il s'est lancé lui-même dans une tentative d'exégèse du livre de Josué pour en faire une interprétation conforme à ses thèses, outrepassant ici ses compétences. Et finalement, il a été téméraire de ne pas écouter saint Robert Bellarmin, qui lui recommandait de présenter ses résultats comme des hypothèses et non comme des faits établis. La fin de l'histoire, enfin de ce premier épisode, eh bien Galilée, déféré au Saint-Office en 1616, est condamné, moins sans doute sur ses idées proprement scientifiques qu'à cause de l'acharnement qu'il a mis à les rattacher aux données bibliques, selon une exégèse où les inquisiteurs ont flairé à 100 lieues le libre examen des Écritures. Sa soumission le sauva du pire, mais ne lui garantit pas d'un second procès qui lui sera fait en 1633. En revenant sur cette affaire Galilée en 1992, Jean-Paul II a mis en évidence une double problématique. La première, épistémologique, donc qui concerne l'herméneutique biblique, c'est-à-dire l'interprétation de la Bible. Ici, il note la nécessité d'une conscience avertie du champ et des limites propres à chaque discipline. Si Galilée s'est montré plus perspicace que ses adversaires théologiens quant aux critères d'interprétation de l'Écriture, ni lui ni ses adversaires n'ont réellement distingué les faits scientifiques des réflexions d'ordre philosophique qu'on leur avait associées, d'où les confusions qui ont suivi. Deuxième problématique, une problématique pastorale qui concerne la portée de la parole de l'Église, qui se doit, dit Jean-Paul II, d'être une parole de vérité, d'où un nécessaire discernement à opérer dans la réflexion et dans l'enseignement, et le souci pour les pasteurs et les théologiens de se tenir régulièrement informés des acquisitions scientifiques pour les prendre en compte s'il y a lieu. Et pour dépasser les situations de conflit entre science et foi qui pourraient surgir à l'avenir, Jean-Paul II a tiré deux grandes leçons de cet épisode. Premièrement, souvent, au-delà des deux visions partiales et contrastées, il existe, dit-il, une vision plus large qui les inclut et les dépasse l'une et l'autre. Et c'est elle qu'il faut rechercher. Et deuxièmement, pour une juste compréhension du problème, il faut avoir conscience qu'il existe deux domaines du savoir, celui qui a sa source dans la révélation et celui que la raison peut découvrir par ses seules forces. Les deux domaines ne sont pas purement extérieurs, donc purement disjoints l'un à l'autre, ils ont des points de rencontre et les méthodologies propres à chacun permettent de mettre en évidence des aspects différents de la réalité. Mais revenons à notre question initiale. La foi s'oppose-t-elle à la science moderne? Une contribution éclairante à ce sujet nous vient du physicien Peter Hodgson. En effet, il met en avant que pour l'émergence de la science moderne, il a fallu d'une part des conditions matérielles adéquates, donc comme l'écriture, les mathématiques, les outils de mesure, mais aussi une vie sociale stable qui permette aux scientifiques d'étudier, donc des conditions matérielles, mais surtout spirituelles adéquates. Et parmi celles-ci, il cite « la considération d'un monde bon, ou au moins neutre, car si c'est un monde que l'on considère mauvais, eh bien on ne cherchera pas à l'étudier, mais aussi d'un monde rationnel et ordonné, qui soit accessible à la raison, mais non nécessaire, car si c'était un monde nécessaire, alors la réflexion seule pourrait permettre de tout élucider. Alors que si l'on considère une part de contingence, eh bien cela rend nécessaire le recours à l'expérience pour l'appréhender, pour voir le monde tel qu'il est réellement et non tel qu'il pourrait être. Deuxième point, il faut aussi une estime pour la science elle-même, comme valeur pour la société, donc utile au bien commun, par exemple, par l'amélioration des conditions de vie offertes par la technique. Mais il faut aussi la considération d'un temps linéaire, avec un commencement et une fin, et non d'un temps cyclique, qui est la vision du temps largement partagée par toutes les civilisations avant la révélation. Car on comprend bien que si tout se répète inexorablement, si nous sommes soumis au destin, alors pourquoi tenter de comprendre et de faire quelque chose de nouveau ? Enfin, il faut une volonté de partage des connaissances et de collaboration dans la recherche pour mener à bien une telle entreprise. Or, dit-il, on peut considérer que l'ensemble de ces conditions ont été réunies pour la première fois avec la civilisation chrétienne du Moyen-Âge, qui fut effectivement le berceau de la science moderne. En effet, c'est la foi chrétienne qui nous assure que le monde est bon, créé par Dieu qui est logos, c'est-à-dire raison, et ce, librement. Donc il ne s'agit pas d'un univers nécessaire, mais il est cependant ordonné. Par ailleurs, la conviction de l'unique incarnation du Christ a brisé cette conception cyclique du temps. L'opportunité de connaître le Créateur en étudiant sa création a aussi stimulé la recherche scientifique, de même que l'ordre divin de soumettre la terre et de dominer sur la création. Et enfin, la condition du libre partage des connaissances est proclamée par le livre de la sagesse. Je cite « Ce que j'ai appris sans calcul, je le partage sans réserve. Je ne veux rien dissimuler de ces richesses. » On peut donc dire que finalement, non seulement la foi ne s'oppose pas à la science moderne, mais qu'elle a en plus dû favoriser son émergence. Je termine avec les mots du cardinal Poupart dans la synthèse qu'il donne des travaux réalisés par la commission d'études sur l'affaire Galilée. Il dit « La passion de savoir, le besoin de comprendre sont inscrits au cœur de notre être. Et les hommes de science se rencontrent en cette requête avec les hommes de foi. » Foi et science en quête de vérité ont besoin d'une même liberté, dont Galilée est devenue la figure symbolique exemplaire au seuil de la modernité. Ajoutons simplement que cette liberté ne serait qu'illusoire si elle n'est pas soumise à la vérité, et une autre vertu pourrait donc être nécessaire, l'humilité. N'est-ce pas finalement ce qui a manqué dans cette affaire Galilée ?